Depuis l'affaire McKinsey, ils sont au cœur de l'actualité et des suspicions, les cabinets de conseil. Mais depuis l'an dernier, leur situation économique et financière est plus compliquée qu'elle ne l'était. Leur carnet de commandes se vide et même l'État dit avoir largement diminué leur recours et leurs services. Mais que sont vraiment les cabinets de conseil? Qui les compose? À quoi servent-ils? Quelle est la réalité de leur travail et de leur raison d'être? Pour en discuter, pour en débattre, même trois invités ce soir. David Naïm, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant stratégie associé dans l'un des plus gros cabinets de conseil du monde et auteur du roman intitulé Le Consultant qui vient de paraître aux éditions de la Goutte d'Or. À vos côtés, Sébastien Stanger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de gestion, auteur du livre intitulé Au cœur des cabinets d'audit et de conseil qui a paru, lui, aux presses universitaires de France. Et avec nous à distance, Julie Gervais. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la haute fonction publique et des cabinets de conseil, co-autrice du livre intitulé « La haine des fonctionnaires ». C'est aux éditions Amsterdam. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et une question toute simple, David Naïm, pour commencer, parce que vous abordez cette question justement dans votre roman, Le Consultant. Pourquoi les cabinets de conseil sont-ils objet de détestation? Est-ce que l'opinion ne comprend pas le travail que vous faites, ou bien il y a une incompréhension plus profonde entre deux mondes qui divergent?
Il y a beaucoup d'éléments à ça. Je pense que effectivement, il y a des images d'épinal que traînent les cabinets de conseil et les consultants. Cette image de personnes qui ont l'air de coûter cher rien qu'à regarder leur costume. Cette idée qu'ils ressemblent un peu à des réplicants de Blade Runner, qu'ils ont tout vécu, qu'ils ont tout connu. Et après, il y a des aspects un peu plus fondamentaux qui sont l'influence et la participation qu'ont eu les cabinets de conseil aux dernières transformations. C'est-à-dire qu'on a dit pendant des années aux employés « soyez productifs ». Après, on leur a dit « soyez innovants ». Après, on leur a dit « soyez agiles ». Et en fait, à chaque fois qu'on a eu ces injonctions-là, qui se remplissent en fait hein, depuis un certain nombre d'années, il y a une certaine forme de violence et, si j'utilisais même un mot un peu dur, une certaine forme d'humiliation sur les employés eux-mêmes, parce que c'est dur de s'entendre dire de changer tout le temps, de changer sans même parfois d'objectif clair du changement. Donc, et les consultants ont cristallisé en fait hein, ces difficultés auxquelles fait face le monde du travail aujourd'hui.
Parce qu'ils sont l'image, l'incarnation d'un capitalisme de plus en plus violent, selon vous, parce qu'ils cristallisent justement cette image-là?
Parce qu'il y a eu en fait un changement intéressant, c'est-à-dire que les consultants, ils sont là pour résoudre des problèmes. Mais petit à petit, en fait, on voit quand on arrive dans des entreprises justement qui sont déjà soumises à pas mal de pression, notamment la perte et la fuite des talents ou la raréfaction des talents. C'est-à-dire que quand on arrive, c'est pas le signe qu'on avait un problème et que ces gens-là vont nous apporter des solutions. C'est le signe et le symptôme du problème lui-même. C'est-à-dire, on voit des consultants, on dit, on n'a pas été bon. Et de là, en fait, on passe très vite à l'étape d'après, qui est de dire les consultants ne sont pas le symptôme du problème, ils sont le problème. Et là, on arrive justement à cette situation aujourd'hui qu'on connaît dans le privé, dans le public, de cette détestation des consultants, qui sont aussi, c'est aussi une détestation un peu confortable, comme dans d'autres cas, c'est-à-dire on aimerait tous supprimer la petite poussière sur le pull et faire qu'on a un monde idéal. Mais c'est hélas pas comme ça que ça marche.
Votre point de vue, Sébastien Stanger, est-ce que les consultants sont les nouveaux mais les mauvais boucs émissaires de l'époque?
En tout cas, c'est sans doute qu'ils sont perçus comme étant les moines soldats au service du capitalisme. Et de fait, ils sont mandatés en général, au moins pour le conseil en stratégie, par les directions générales. Donc on va les percevoir, et c'est leur mission souvent, comme devant... ou améliorer l'efficacité d'une organisation, ou la rentabilité, ou diminuer les coûts dans le service public. Donc, ils sont les porteurs de décisions qui peuvent être douloureuses dans une organisation.
Julie Gervais, qui a cristallisé aussi peut-être, j'allais dire, ces sentiments acerbes, c'est les affaires multiples qui ont eu cours il y a quelques années, notamment l'affaire McKinsey. Comment est-ce que vous lisez cette affaire aujourd'hui?
Oui, ces affaires, elles ont eu lieu dans l'ensemble du monde, en fait. Hein. Donc, ce qui contribue aussi à une forme de frilosité aujourd'hui de la part des cabinets de conseil. Mais cette affaire, elle peut être lue du point de vue du système collusif qui existe entre différentes élites. Hein. Donc, des conflits d'intérêts, des réseaux de copinage qui s'expliquent en partie par le pantouflage, par la circulation de certaines élites entre le secteur public et le secteur privé. Mais elle s'explique aussi, cette affaire, par en fait les coûts exorbitants qui ont été révélés, qui sont dépensés par les puissances publiques pour le conseil privé. Et puis aussi le manque de transparence, finalement, les méthodes très douteuses parfois qui ont été employées par les cabinets de conseil, avec des résultats parfois médiocres.
Alors on va distinguer hein, les cabinets, les consultants qui travaillent avec le public, ceux qui œuvrent avec le privé. Mais entrons dans ce monde avec vous, David Naïm. Vous disiez tout à l'heure, un consultant, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel type de problème?
C'est un peu aujourd'hui, on peut le décrire plus facilement avec l'avènement de ChatGPT, parce qu'aujourd'hui un consultant c'est un peu ChatGPT avec un costume, c'est-à-dire on vous pose une question et vous y répondez. La différence avec ChatGPT, c'est que les questions sont complexes, donc ça peut être de nature très différente. Il y a des questions, j'ouvre une nouvelle activité dans un nouveau pays, j'ai pas les compétences en interne, donc là, effectivement, les dirigeants vont faire appel à des cabinets de conseil. Il y a des problématiques d'organisation qui peuvent être liées à de la réorganisation pour des raisons d'efficacité, qui peut être liées aussi à de la réorganisation pour des raisons de désaccord. Ça peut être aussi des sujets plus difficiles, d'entreprises en difficulté qui ont besoin de faire des économies, de repartir dans des perspectives de croissance. Donc les problèmes sont assez variés, mais le réflexe est toujours un peu le même, c'est-à-dire comme nous, dans le privé, on a un problème, on appelle un notaire, un avocat, un ami, si on a des problèmes de cœur ou d'autres. Mais ce qui est finalement le point commun à tous ces aspects-là, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'en fait, on appelle à un cabinet de conseil parce que c'est une vue extérieure d'un organisme ou d'une personne à l'intérieur de cet organisme en qui on fait confiance et en qui on place sa confiance pour résoudre le problème.
Qu'est-ce que vendent, Sébastien Stanger, les cabinets de conseil? Quelle est leur compétence? Quand on va voir, comme le disait David Naïm, l'avocat ou le notaire, on sait qu'il a une compétence juridique appuyée, fondée par des années d'études. Le cabinet de conseil, qu'est-ce qu'il apporte concrètement du point de vue de la compétence?
Si on devait schématiser, je pense qu'on pourrait dire que c'est un expert, ça peut être un expert sectoriel. D'ailleurs, peut-être, parce que vous avez évoqué la séparation public-privé, elle est moins structurante dans cet univers professionnel, probablement parce que le secteur public, il représente une part assez faible en réalité du chiffre d'affaires de ces cabinets, peut-être 5 à 10% seulement des plus gros. Mais par contre, il y a différents types de conseils, et qu'on peut même peut-être souligner que le secteur du conseil est hiérarchisé, il y a des activités de conseil qui sont plus prestigieuses que d'autres. Donc, ils ne vendent pas la même chose. Et au top du tableau, on va avoir le conseil en stratégie qui conseille les directions générales sur des orientations stratégiques pour l'avenir.
Sur l'organisation de l'entreprise?
Oui, éventuellement, mais même là, déjà, on va passer sur le conseil en organisation ou conseil en management. Donc, conseil en stratégie, on a trois gros acteurs qui ont fait la une de l'actualité ces dernières années et qui sont McKinsey, Bain et le BCG. Enfin, c'est les trois dominants, il y en a d'autres, mais qu'on va appeler les Big Three. Ensuite, on va avoir le conseil en management ou en organisation qui va s'incarner. Alors, il y a du conseil en stratégie aussi dans ce qu'on va appeler les Big Four, qui sont Price, Ernst & Young, KPMG, Deloitte. Et on va avoir aussi du conseil en SI autour d'acteurs privés qui sont réputés et qui ont intervenu aussi dans le secteur public, Accenture, Bearing Point. Et enfin, les cabinets d'audit. Donc, vous voyez, chacun vend des services spécialisés sur ces domaines-là. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que le consultant, il apparaît comme un tiers extérieur. Et donc, il est sollicité, parfois pour des missions de complaisance, parce qu'un directeur de service ou d'unité a besoin de l'assise prestigieuse des recommandations d'un cabinet pour aller dans son sens, mais parfois aussi pour suspendre, amortir les luttes de pouvoir ou les conflits qu'il y a dans des organisations et faire avancer des choses en tant que tiers indépendant.
Comment est-ce que vous décririez, Julie Gervais, la légitimité de ce savoir si spécifique, à la fois très généraliste, on l'a compris, puisqu'on aborde des problèmes extrêmement divers dans leur nature, et dans le même temps très précis, sans doute d'ailleurs, dans leur méthodologie?
La valeur ajoutée du consultant, du point de vue de la légitimité de son savoir, c'est qu'il est capable de compiler en fait des informations. D'où l'idée de ChatGPT en costume. Hein. C'est-à-dire que les consultants ne produisent pas de matière grise eux-mêmes, comme par exemple peuvent le faire des chercheurs, mais vont récupérer de la data, comme ils disent, hein, des données, et ont cette force de frappe hein, à leur avantage, à savoir pouvoir récupérer un maximum d'informations de différentes sources et ensuite de la mettre en forme. Et cette mise en forme, c'est pas simplement superficielle de la paillette, hein, c'est que ça joue un vrai rôle, hein, cette idée d'avoir des rapports sur papier glacé, avec de beaux schémas, dans une charte graphique précise. Tout cela, ça en jette, ça fait professionnel, mais ça fait aussi scientifique et expert.
Et vous dites, ça, pardonnez-moi, vous dites, ça fait professionnel, ça fait scientifique. On a le sentiment que vous laissez entendre que ça ne l'est pas fondamentalement.
Si vous voulez, c'est plutôt l'idée de dire qu'ils vont récupérer des informations, d'accord, qui, elles, peuvent être, par exemple, des informations tirées de recherches universitaires, hein, qui peuvent être des informations rigoureuses, d'accord, mais... qui vont ensuite hein, pouvoir mettre à profit ces organisations, sachant que eux-mêmes n'auront pas produit hein, cette matière grise d'entrée. Alors ensuite, il y a aussi toute une dimension de leur savoir qui est de l'ordre du benchmark hein, et qui est tirée de leur connaissance, hein, leur expertise, leur connaissance des entreprises privées hein, et qui vont pouvoir récupérer ensuite pour l'appliquer au secteur public.
Une réaction, David Naïm, la force des cabinets de conseil, c'est d'abord et avant tout de synthétiser, puis de rendre un produit esthétique presque dans sa dimension marketing.
Alors, je pense que Julie a raison, il y a déjà un premier aspect qui est effectivement les entreprises aujourd'hui, elles sont un peu à l'os, si j'ose dire, en termes de ressources et de capacité à gérer l'inattendu. Et la grande problématique dans le monde dans lequel on vit, c'est que l'inattendu, il arrive tous les jours. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que les entreprises, et particulièrement les très grosses, elles sont venues, non pas très grosses, mais énormes et d'une complexité incroyable. C'est-à-dire que vous avez des entreprises aujourd'hui, elles sont dans plus de 100 pays. Il faut savoir ce que ça veut dire, 100 pays. Elles gèrent des dizaines d'activités très différentes. Et donc, quand vous faites la somme des deux, ce qui se passe, c'est que souvent, les dirigeants, ils ont besoin de prendre des décisions. Et cette décision, ils ont besoin de la prendre avec un sentiment de confiance. Donc, il y a cette espèce de lâcher prise à un moment, de dire, ben voilà, c'est ça que je dois faire dans un environnement qui est, que parfois eux-mêmes ne comprennent plus. Et c'est là que les consultants arrivent, parce que, effectivement, la forme permet, c'est ce que j'explique dans mon livre, la forme génère de la confiance, c'est Roland Barthes. Et par ailleurs, il y a un élément que soulignait Julie, c'est que, effectivement, quand des consultants arrivent sur un sujet, ils se mettent sur un sujet 12 heures par jour à 10, quand chez le client, il y a les mêmes compétences. Ce n'est pas une question d'intelligence, de compétences, de formation. Vous avez des gens qui gèrent 15 sujets par jour.
Donc vous avez d'abord la richesse du temps, si je puis dire.
On a la richesse du temps, c'est un élément essentiel qui fait la différence et qui génère aussi beaucoup de frustration hein, chez les clients, parce que effectivement, les gens sont tout à fait capables de le faire, mais quand ils sont obligés de jongler avec soit des structures, soit différents projets, et que vous arrivez avec des gens très très forts, très bien formés, avec beaucoup de méthodes en plus, qui l'ont fait, qui savent le refaire, et qui font ça 12 heures par jour, parce que c'est leur job de faire ça 12 heures par jour pendant 3 mois, effectivement, on y arrive.
On écoute l'extrait d'un documentaire sur les docs intitulé Le monde de l'entreprise et qui évoque justement cette théâtralisation, cette mise en scène des résultats des consultants.
Quand on y réfléchit, c'est un métier qui finalement facture des sommes conséquentes et qui est confronté à un problème, c'est qu'en face de ces sommes conséquentes, il y a du mal à mettre des produits. très souvent, le client ne voit pas toujours le processus, il ne voit pas toujours la valeur ajoutée. Et donc, l'un des problèmes auxquels est confronté le conseil, et notamment les grands cabinets, c'est de faire en sorte que sa prestation soit visible et surtout que les sommes facturées soient justifiées. Donc, il est évident qu'il faut un minimum de spectacle à offrir de manière à ce que les honoraires soient justifiés. C'est ça que j'appelle la théâtralisation, la mise en scène, si vous voulez, du type de prestations et de conclusions qu'ils peuvent délivrer.
C'est ça, Sébastien Stanger, la réalité du travail, au fond, c'est la synthèse et la mise en spectacle ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cabinets de conseil font des prestations de nature intellectuelle qu'on peut qualifier d'ambigu. C'est-à-dire que les consultants sont eux-mêmes des gens qui vont promouvoir la mesure chez leurs clients, parce que ce qu'on peut bien mesurer, on peut bien le gérer. Enfin, ils ont une vision managériale et de pilotage de la performance des organisations autour d'indicateurs chiffrés.
Ça veut dire qu'ils objectivent les choses ?
Ils aiment objectiver par des indicateurs chiffrés la performance chez un client pour pouvoir la piloter. Mmh. Mais à l'inverse, la prestation de conseil qu'ils délivrent, elle est peu quantifiable, donc elle est ambiguë. Et donc, c'est sûr que la forme là-dessus, elle va être un marqueur de la qualité ou du statut de prestige de la prestation que vous achetez. Ça peut passer par un langage ésotérique. Bon, enfin, ça peut être le cas d'autres professions aussi, hein, mais effectivement, de statuts sociaux, on va aussi vendre des consultants et on va indiquer leur diplôme. Donc, il y a effectivement, pour contrebalancer l'ambiguïté de l'intervention du consultant fondamental, ces marqueurs de statut qui vont confirmer ça.
Julie Gervais, vous souhaitiez réagir sur le temps et la richesse du temps.
Oui, c'est un élément important dans l'intervention des consultants et qui convient vraiment à l'accélération du rythme politique sur la période contemporaine. C'est-à-dire que sur la scène politique, il faut asseoir son leadership, il faut montrer qu'on est un homme ou une femme d'action et donc mener des réformes comme ça au pas de charge. Et ça marche vraiment très bien avec les délais serrés dont sont capables en fait les consultants. Pas parce qu'ils sont plus efficaces et particulièrement intelligents, parce que non seulement, comme le disait David, il y a cette dimension d'effectifs qui sont dévolus à une tâche précise, mais il y a aussi souvent des équipes qui sont en backup, comme ils le disent, et notamment, par exemple, il est connu qu'un des grands cabinets de conseil a un centre de production de diapositives de slides hein, en Inde qui regroupe une cinquantaine de personnes, donc c'est le studio, hein, on appelle ça en interne. Et donc on a une réunion par exemple avec des hauts fonctionnaires au ministère de l'économie et des finances qui se termine le soir à 18h30. Les consultants et les hauts fonctionnaires rentrent chez eux, les consultants font une première version et puis en fait ils envoient au studio, donc à des équipes qui sont à l'étranger, en Inde par exemple, et qui vont travailler donc la nuit en horaire décalé. Mmh. Ils envoient un premier draft, un premier brouillon, et puis le lendemain à 7h, ils vont avoir le PowerPoint terminé, remis en forme avec les couleurs, etc., sur la table du ministère.
L'un de vos personnages, David Naïm, dit à un moment du livre intitulé « Le consultant », on n'a pas d'idéologie, on n'a pas une vision politique. Est-ce que vous êtes d'accord vous-même avec votre personnage ?
Bah, il y a, et c'est peut-être d'ailleurs un débat, il y a effectivement une...
Une neutralité du consultant ?
Les cabinets de conseil sont des organisations commerciales, donc à ce titre-là, effectivement, elles n'ont pas d'idéologie. Alors après, elles ont toutes leurs règles d'éthique, mais comme toutes les entreprises, c'est-à-dire dans tel cabinet, on va pas travailler avec tel secteur d'activité, et dans tel autre, avec tel autre secteur d'activité. Mais les cabinets de conseil sont pas là pour juger de tel régime politique.
Julie Gervais.
Oui, alors je dirais que en fait ils ont vraiment une vision du monde qui leur est propre. Ils ont plusieurs choses en commun. Bon, il se trouve que si on se concentre sur les grands cabinets, il s'agit tout de même de consultants qui viennent d'une élite sociale, qui sont souvent issus de beaux quartiers, qui ont étudié dans des grandes écoles, etc. Donc un monde plutôt privilégié. Mais surtout, pour reprendre les termes de David, ils travaillent pour des cabinets, donc des entreprises commercial, dont l'objectif, c'est faire du profit. Or, comment font-ils du profit ? Ils font du profit en vendant leur expertise. Et ils sont experts de quoi ? Ils sont experts du privé. Et donc, quand ils interviennent, par exemple, dans le public, dans l'administration, ils vont prospérer dans la diffusion de ce qu'on a appelé le nouveau management public, le New Public Management. Et c'est vraiment là leur fonds de commerce. Et ça, c'est une doctrine qui consiste précisément à faire du privé un modèle à atteindre, un modèle à suivre. Donc oui, les consultants, en ce sens-là, ont une influence politique, dans le sens où ils vont promouvoir, en fait, par leur activité, une vision du monde, et cette vision du monde selon laquelle les services publics doivent s'inspirer des valeurs et des objectifs du marché. Et donc, ils diffusent, ils facilitent des politiques néo-managériales qui consistent à dire que les services publics devraient être rentables et créer du profit.
David Naïm, sur cette vision du monde portée par une bonne part des cabinets de conseil.
Oui, je fais juste un petit point, je me permets, sur ce point de théâtralisation, parce que je pense qu'on ferait une analyse un petit peu erronée en disant ça, c'est-à-dire que la communication, la présentation des choses, elle est faite pour, encore une fois, susciter de la confiance. Et après, s'il y a théâtralisation, elle est aujourd'hui le reflet de ce qu'est aujourd'hui l'économie, de cette vision très marketing des choses. Et sur le point de la mesure de la performance, c'est vrai qu'on peut pas, de la même manière que c'est difficile de mesurer la performance de son psy, si je fais un parallèle un peu hasardeux. Et en fait, en réalité, on pourrait...
Ça coûte moins cher.
Ouais. Ça dépend duquel.
Ça dépend du pied.
Mais en réalité, on pourrait, mais souvent, c'est les clients eux-mêmes qui ne veulent pas, parce que mesurer la performance de ce qu'on fait, c'est mesurer la performance de ce qui a été fait dans l'entreprise aussi. Donc souvent, c'est ce sujet de la mesure de la performance, il n'est pas si binaire, si j'ose dire, au manichéen, entre d'un côté les consultants qui ne voudraient pas ou ne sauraient pas, et de l'autre côté les clients.
Et sur l'idéologie ?
Et sur l'idéologie, je fais juste une remarque sur ce que disait Julie. Les consultants qui travaillent dans le privé sont pas ceux qui travaillent dans le public. En fait, c'est pas les mêmes, parce que c'est pas du tout les mêmes sujets, c'est pas les mêmes compétences. Après, les entreprises, les cabinets de conseil sont des entreprises qui sont le représentant parfait du système capitaliste. Donc évidemment, on va trouver assez peu de gens préparés au grand soir dans les cabinets de conseil. Mais ceci étant, c'est quand même, encore une fois, il y a une attention portée à ne pas aller au-delà d'un certain, intrusion idéologique. Et après, encore une fois, si aujourd'hui le secteur public est ce qu'il est, et s'il y a cette idéologie-là, il faut chercher du côté des politiques, pas des consultants, parce que les consultants sont certes influents, mais ça n'a rien à voir avec les entreprises elles-mêmes, ça n'a rien à voir avec les cabinets de lobbying, mais vraiment rien.
Julie Gervais, après je ferai réagir Sébastien Stanger.
Oui, je pense qu'il faut faire... en fait, il faut revenir sur ce qu'on entend par influence. Il ne s'agit pas, comme ont pu le faire croire certains essais consultants qui vont manipuler en fait des politiques ou des administratifs qui sont réduits à l'état de marionnettes. C'est pas ça. Ce qu'on observe, c'est principalement des formes de collaboration et de division du travail entre d'un côté les élus, les hauts fonctionnaires, et puis de l'autre côté les cabinets de conseil. Donc il y a une influence, et cette influence, elle passe notamment par des effets de dépendance. Mais je peux revenir sur éventuellement cette différence entre consultant public et privé, parce qu'en effet, il y a des différences. Elles ne sautent pas aux yeux de l'extérieur, mais il en existe, même si elles sont souvent entretenues et mises en scène aussi. Donc, il peut y en avoir déjà sur l'apparence. Le consultant qui intervient dans le public, dans l'administration, dans les ministères, il va privilégier, par exemple, le col roulé ajusté au costume Yves Saint-Laurent. On va avoir des différences dans les profils. On a beaucoup, évidemment, de consultants qui travaillent pour le public et qui sont classiquement sortis des écoles de commerce ou de polytechnique. Mais on va trouver aussi beaucoup de personnes qui ont elles-mêmes hésité à devenir fonctionnaires, qui ont raté un concours de la fonction publique, qui ont une mère haute fonctionnaire. Et puis, c'est évidemment là qu'on va retrouver aussi des hauts fonctionnaires qui pantouflent ou qui circulent.
Vous êtes d'accord, Sébastien Stanger, avec la description de ces profils? Ça correspond à ce que vous avez observé vous-même, et cette hiérarchie presque que l'on sous-entend entre les spécialistes du privé et ceux du public?
Alors, en tout cas, juste pour rebondir, parce que je suis pas spécialiste du conseil en secteur public, mais c'est sûr que, malgré tout, les cabinets de conseil, les consultants sont porteurs d'une vision de la gestion d'entreprise plutôt financiarisée autour d'indicateurs chiffrés, qui peut se heurter aux cultures professionnelles, en particulier dans le secteur public. Où, effectivement, on ne gère pas un hôpital ou le soin ou la psychologie de la même façon qu'on va gérer la production dans une usine.
Mais ça, les consultants, on imagine, peuvent le prendre en compte
Oui, mais ça vient toujours se heurter. C'est-à-dire que quand, de mémoire, on regarde le rapport du Sénat sur les cabinets de conseil, on avait des missions qui pouvaient se heurter avec une culture professionnelle de qualité et qui pouvait rentrer en conflit avec la volonté d'améliorer les coûts, d'augmenter le taux de rotation des lits dans un hôpital, etc. En tout cas, d'une gestion plus comptable, en tout cas. Cela dit, je pense que c'est pas univoque. Il y a des missions qui ont été critiquées à juste titre pour leur faible valeur ajoutée. Moi, pour avoir rencontré des consultants en secteur public... Il y a des missions de complaisance où on sent un directeur de business unit qui veut à la fois la dépense somptuaire que représente une prestation de conseil pour se faire avancer ses intérêts. Et il y a des missions où certains consultants que j'ai pu rencontrer ont le sentiment, en tout cas, de faire avancer les choses, de contribuer à fluidifier de l'avancement de projets. Sur le secteur de l'informatique, par exemple, il y a des difficultés à avoir des compétences en interne, donc qui peuvent... Mais de manière générale, les associés de ces cabinets sont des commerciaux, c'est-à-dire que effectivement, j'en renvoie au donneur drone, c'est-à-dire que s'il y a un directeur d'unité qui est prêt à sortir son chéquier pour une mission, ils vont pas lui dire non, ton argent est mal dépensé. En tout cas,
qu'est-ce qui motive David Naïm, un jeune, une jeune en sortie d'études, qu'est-ce qui le motive à devenir consultante ou consultant? Est-ce que c'est le sens qu'il va trouver dans le quotidien de son travail? Vous décrivez dans votre roman drôle par ailleurs un monde extrêmement violent, compétitif tout de même.
Bah, c'est un monde qui est très compétitif et c'est souvent qui est très compétitif et qui est très intéressant de par la nature des travaux qui y sont faits. Et c'est souvent la somme de ces deux aspects-là qui crée l'intérêt des jeunes pour le consultant, sachant que souvent les jeunes qui postulent dans des cabinets de conseil, ils viennent des très grandes écoles. Donc là, on a Bourdieu dans, si j'ose dire, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que
la reproduction sociale est à son paroxysme.
Voilà, donc on a des gens, en fait, quand ils postulent dans un cabinet de conseil, ils adhèrent déjà à ce modèle-là qui est extrêmement connu. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait justement dans le livre, c'est de voir non pas le système en tant que tel, mais ce que ce système, au sens large, du monde du travail, pas seulement des consultants, qui sont un peu le représentant parfait des dysfonctionnements aujourd'hui du système du travail, qu'est-ce qui produit à titre individuel, et d'ailleurs, c'est ce qui arrive au personnage principal, à quel point, à un moment donné, il se retrouve, c'est sa femme lui dit, ses filles lui disent, il se retrouve à se voir cruel. Et c'est des systèmes comme ça qui peuvent produire de la souffrance et de la cruauté. Et justement, et les jeunes, quand ils rentrent, ils voient cette aventure dans laquelle ils peuvent rester un an, trois ans et peut-être un peu plus. Cette compétition qui est en même temps dure et en même temps ludique et intellectuellement passionnante. Et petit à petit, il y a cette érosion comme ça de sens, de fatigue aussi.
Mais pardonnez-moi justement sur cette question du sens, parce qu'elle est centrale notamment pour les jeunes travailleurs, pour les plus jeunes générations. Tout l'indique, tout le documente. Quelle valeur, si je puis formuler les choses ainsi, attire ces jeunes-là dans des cabinets de conseil?
Moi, cette histoire de valeur, je pense encore une fois, c'est la capacité à monter vite, à parler avec des dirigeants, enfin toute cette image qu'on voit.
Donc c'est d'abord une dimension de carrière.
C'est d'abord une dimension de carrière, et après, vous parliez de sens. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un des sujets qui est problématique. Hein, c'est-à-dire que dans le monde du travail, aujourd'hui, les entreprises ont vendu des espèces de transcendance. On parle de purpose, on parle de sens. y a une espèce de volonté de faire du one-stop shopping, du bonheur, on trouve tout.
Du one-stop shopping, qu'est-ce que c'est?
C'est le guichet unique dans lequel on va, pardon, je parle en anglais, je parle comme un consultant, pardon. Ce guichet unique dans lequel on va trouver tout, sa carrière, son bonheur, sa réalisation personnelle. Et d'ailleurs, les jeunes commencent à se méfier, à se rebeller, si j'ose dire, contre ça. C'est-à-dire que moi, je médite beaucoup pour qu'on revienne à des fondamentaux dans le monde de l'entreprise, qu'on réfléchisse plutôt à ce qu'est un fondamental dans une entreprise. Est-ce que l'écologie s'en est un? Est-ce que les qualités hommes-femmes s'en est un? Mais qu'on arrête un peu de parler de sens, de parler d'expérience, de bonheur, etc.
C'est pas l'objet. Sébastien Tanger, c'est hors sujet le sens dans la recherche de sens dans les cabinets de conseil.
En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que en dépit de ce qu'on peut dire sur une nouvelle génération qui serait davantage sensible au sens au travail, au bien-être privé, professionnel, aux enjeux économiques et sociaux ou écologiques, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une stabilité, une inertie dans les recrutements des jeunes diplômés en sortie d'études, et que cabinet reste toujours attractif. Et donc, si on regarde depuis 10 ans les chiffres de la conférence des grandes écoles, 25% des étudiants de jeunes diplômés d'écoles de commerce en grande école s'orientent vers les cabinets de conseil. Donc, on est obligé de comprendre pourquoi. Mmh. Et la raison, elle est simple, c'est que, effectivement, la priorité de ces jeunes diplômés, c'est pas... ils peuvent avoir un souci de sens au travail, mais la priorité, ça reste la carrière, la rémunération et les perspectives professionnelles. Et de ce point de vue, les cabinets de conseil constituent ce qu'on peut dire comme étant un lieu de fabrication de l'élite économique. McKinsey a été longtemps appelé la factory à CEO. Et donc, c'est des espaces de transition, des lieux de circulation de l'élite économique dans lesquels ces jeunes diplômés savent qu'ils vont continuer à être formés, parce que c'est assez formateur. Tous les 6 mois, on change de mission, on découvre une autre entreprise. Et que surtout, c'est un tampon sur le CV et un accélérateur de carrière qui permet, parce que c'est un métier qu'on fait de manière temporaire, transitoire, très peu de consultants sont voués à terminer leur carrière en consultant. Et donc, c'est à l'issue de 2-3 ans ou 6 ans d'expérience en cabinet de conseil, on peut prétendre à des positions de pouvoir dans les directions de grandes entreprises.
Julie Gervais, vous êtes d'accord avec cette approche? Et est-ce que les jeunes diplômés, les consultants qui se dirigent plutôt vers le service, au service public, est-ce qu'ils sont eux-mêmes un peu plus que les autres en recherche de sens?
En tout cas, ce sont des valeurs qu'ils revendiquent. Donc, il faut clamer son appétence pour le public. Il faut bien se démarquer de ses collègues qui travaillent pour les entreprises privées. Il faut dire son attachement à l'intérêt général. Et ça passe aussi d'ailleurs par le langage. Hein. Il faut pouvoir susciter en fait la confiance des fonctionnaires. Et donc, il faut choisir ses mots. Et vraiment, le grand mot d'ordre, ça va être de ne jamais paraître commercial. Et donc, à chaque fois, ne pas parler de productivité, mais parler plutôt du confort de l'agent, d'améliorer la qualité du service pour les usagers. Et s'ils parle ainsi, c'est pas parce que ça risquerait de choquer les hauts fonctionnaires avec lesquels ils travaillent, mais c'est parce que justement, c'est aussi ce langage feutré que les hauts fonctionnaires ont appris à manier.
Un extrait d'un reportage signé France Info, c'était le 14 mai 2025, qui évoque les conditions de travail d'un très grand cabinet de conseil, EY.
Devant le siège d'EY, rares sont les salariés qui acceptent de témoigner par peur, disent-ils, des représailles. C'est donc sous couvert d'anonymat que cette jeune cadre décrit ses semaines à rallonge.
Je pense en moyenne entre 50 et 60 heures par semaine. On a déjà beaucoup de dossiers, on a aussi une pression un peu indirecte où si on veut réussir, on sait qu'on doit s'investir et du coup travailler plus. J'ai plus de fatigue, je me suis bloqué le cou, je dormais très mal la nuit.
Après l'accord de 2021, cette limite de temps de travail hebdomadaire saute, donc nous n'avons plus de compensation du temps de travail hebdomadaire au-delà de 48 heures, ce qui signifie que le temps de travail est de facto quasi illimité.
David Naïm, ces conditions de travail sont-elles si difficiles en moyenne, on l'imagine ?
C'est un métier dans lequel on travaille beaucoup, mais Moi, j'ai vu beaucoup de souffrance au travail chez mes clients. Il y a quelques années, à l'époque de Didier Lombard, chez France Télécom, moi, je travaillais là-bas et je peux vous dire que c'était pas côté de mes équipes qu'on voyait le plus de difficultés. Je vois aussi chez mes clients des heures de travail très intenses. Je nie pas le fait que ça existe, mais pour moi, la question essentielle, c'est aujourd'hui celle de... Encore une fois, de la souffrance et du caractère presque abrasif qu'a aujourd'hui le monde du travail sur les collaborateurs, qui passe par beaucoup d'heures de travail, mais qui dépasse ça aussi. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce vertige en fait de la recherche de rationalité à tout prix, de cet empilement de rationalité qui donne à la fin des choses absurdes dans les entreprises, qui pousse aussi les entreprises à vouloir se simplifier. Parce que c'est l'alpha et l'oméga en fait de ce qu'on peut trouver de plus simple comme stratégie. Et c'est tout ça aujourd'hui qui crée des difficultés chez les employés, chez les consultants, dans les très grands cabinets comme dans les entreprises.
Hein. Sébastien Stanger, pas plus de souffrance dans les cabinets de conseil en comparaison du reste du monde du travail ?
En tout cas, les rythmes de travail dans les cabinets de conseil sont intensifs. C'est une extrême heure culture, mais ça fait partie du business model de ces cabinets. Et c'est un peu ce que j'évoquais, c'est que les consultants, quand ils rejoignent ce cabinet, ils sont en recherche d'une ascension sociale, ils ont un désir de réussite, ils ont un projet, enfin en tout cas personnel, de mobilité et de réussite, et ça passe par une implication intensive dans le travail. Le système des carrières, il est organisé selon ce qu'on appelle un système upper-out, c'est-à-dire soit on monte, et chaque année, il y a des passages de grade, ou tous les deux ans, avec des conseils de classe appelés comités d'évaluation, qui sont organisés.
On progresse ou on dégage ?
Voilà, alors ça peut être volontaire ou subi ou incité, mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été ambivalent. Les consultants, ils peuvent s'en plaindre, et en même temps, c'est aussi un choix qui fait écho à leur socialisation scolaire antérieure, c'est-à-dire à la compétition scolaire dont ils sont sortis vainqueurs, puisque la majorité d'entre eux viennent des grandes écoles et d'études en classe préparatoire. Donc il y a une espèce d'homologie, et les carrières dans ces cabinets de conseil sont organisées un peu de la même façon que le parcours scolaire qu'ils ont connu.
Je vous ai proposé, David Naïm, de lire un extrait de votre ouvrage Le Consultant, pour donner justement le ton. On reviendra sur la critique acerbe tout de même que vous dépliez dans ce roman.
D'accord. Là, le passage que je vais lire, c'est Simon, le héros, qui est à un dîner avec des profs. Le monde est cul par-dessus tête. Quand tu penses qu'il y a des salopards qui gagnent des millions pour faire des jobs toxiques, quand les emplois utiles crèvent la dalle. Simon calcula qu'il gagnait chaque mois 2 ans de salaire d'un prof et décida que c'était le moment. « Tu peux définir utile, Youssef ?» Les autres se retournèrent vers lui comme s'ils remarquaient sa présence pour la première fois. Sa femme lui jeta un regard, quelque part entre « je t'en prie » et « si tu fais ça, je te jure que ». Bah, c'est évident, répondit Youssef, pincé. Utile quoi, les enseignants, les soignants, tous ceux qui contribuent au vivre ensemble, pas seulement à la consommation. Par exemple, ta coupe Tony Ngai, elle est utile ? Et ta carte Club Med Gym ? J'ai l'impression que je t'ai vexé, Simon. Tu fais quoi dans la vie ? Ah, quand même, la question. Sa femme se resservit un verre de vin, résignée à ce qui allait suivre. Je suis consultant, et ça consiste en quoi ? En gros, c'est comme un juif. Simon, t'es lourd, tenta sa femme sans grand espoir. C'est la meilleure analogie possible. Les consultants sont comme les juifs, incapables d'expliquer ce qu'ils sont. L'immense majorité de ceux qui n'en sont pas en parlent comme on parle des juifs. Ils se ressemblent tous, on les repère à 100 mètres, ils gouvernent le monde en société secrète. Tout ça n'est pas faux, non. Youssef Benzema tentait le tacle. Ça devenait intéressant.
Ça devenait intéressant, et c'est un livre intéressant par ailleurs, mais on se demande quand même, David Naïm, après avoir, écrit un livre si critique à l'égard du monde des consultants, pourquoi continuez-vous dans ce monde-là ?
Mais parce que je l'aime.
Parce que j'aime... Malgré tout.
Moi, j'ai fait 25 ans et je suis encore consultant. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce métier-là pour les relations que ça crée avec les clients, pour le travail intellectuel. Et je pense que c'est bien. Je suis consultant, donc je suis le premier à poser des questions à mes clients, à les mettre parfois dans des zones d'inconfort. Je pense que c'est bien de se poser aujourd'hui des questions sur l'évolution de ce métier-là et sur plus largement sur l'évolution d'un système de travail, d'un système capitaliste dont on voit qu'il dysfonctionne aujourd'hui.
Merci à tous les trois, David Naïm, Sébastien Stanger, Julie Gervais.